Les mystères du Dolph par Anne Radcliffe. Chapitre 30. Émilie, dans la matinée, fut délivrée des craintes qu'elle avait conçues pour Annette. Elle la vit entrer de bonne heure. Sauriez-vous par hasard s'il est des prisonniers dans le château et s'ils sont enfermés dans cette partie du bâtiment ? Demanda Émilie à sa camériste. « Je n'étais pas en bas, mademoiselle, » dit Annette, « quand la première troupe revint de la course, et la dernière n'est pas encore de retour. Ainsi j'ignore s'il y a des prisonniers, mais on l'attend ce soir ou demain. » Et alors je saurai peut-être. » Émilie s'informa si les domestiques avaient parlé de prisonniers. « Ah, mademoiselle, » dit Annette assez finement. « Maintenant je l'ose dire. Vous pensez à monsieur Valancourt. Vous croyez qu'il est venu avec les troupes qu'on dit arrivées de France pour faire la guerre à ce pays-ci? Vous croyez qu'il a rencontré de nos gens et qu'ils l'auront fait prisonnier? Oh, Seigneur, que je serais contente si c'était vrai. » « Vous en seriez contente ?» dit Émilie avec un accent de tristesse et de reproche. « Oui, mademoiselle, soyez-en sûre, » reprit Annette. « Et ne seriez-vous pas contente de voir monsieur Valancourt ? Je ne connais pas un chevalier que j'aime davantage, et j'ai vraiment pour lui une très grande considération. » « On ne saurait en douter, » dit Émilie. « Vous désirez de le voir prisonnier ?» Non pas de le voir prisonnier, mademoiselle, mais vous saviez qu'on doit être bien aise de le voir. L'autre nuit, pas plus tard, je rêvais. Je rêvais que je le voyais dans un carrosse, à 6 chevaux, qui tournait dans la cour du château. Il avait un habit brodé et une épée, comme un seigneur qu'il est. Émilie ne put s'empêcher de sourire aux idées d'Annette sur Valancourt. Ah, ma chère demoiselle, dit Annette. J'oubliais de vous dire ce que j'ai appris relativement à ces prétendues dames qui sont arrivées à Udolphe. C'est la signorina Livona que monsieur amena chez madame à Venise. Elle est à présent sa maîtresse. Et c'était alors, j'ose le dire, à peu près la même chose. Ludovico me dit, mais de grâce, mademoiselle, ne le dites pas, que son excellence ne l'y avait présenté que pour en imposer au monde. On commençait à s'égayer sur son compte, mais quand on vit que madame la voyait, on crut que tous ses discours n'étaient que des calomnies. Les deux autres sont les maîtresses des deux signors Bertolini et Verezzi. Le signor Montini les a toutes invitées. Hier, il a donné un grand repas. Il y avait tous les vins de Toscane, des riz, des chants qui ébranlaient le château. Pour moi, je trouvais ce bruit indécent, si peu de temps après la mort de notre pauvre dame. Il me venait à l'esprit tout ce qu'elle aurait pensé, si elle avait pu l'entendre. Mais la pauvre âme, disais-je, elle n'entend rien. Émilie se détourna pour dérober son émotion, et pria Annette de faire d'amples recherches au sujet des prisonniers qui pourraient se trouver au château. Mais elle la conjura de les faire avec prudence, et de ne pas prononcer son nom, ni celui de monsieur de Valancourt. « À présent j'y pense, mademoiselle, » dit Annette. Je crois qu'il y a des prisonniers. J'ai entendu hier dans l'antichambre un des gens de monsieur qui parlait de rançon. Il disait que c'était une bonne chose pour son excellence que de prendre des hommes, et que c'était le meilleur butin à cause des rançons. Son capitaine murmurait et disait que cela était fort bon pour le capitaine, mais beaucoup moins bon pour les soldats. Nous autres, disait-il, nous ne partageons pas dans les rançons. Cette ouverture augmenta l'impatience d'Émilie. Annette la quitta aussitôt pour en apprendre davantage. La résolution qu'avait prise Émilie de tout céder à Montoni fut soumise en ce moment à des considérations nouvelles. La possibilité que Valancourt fût près d'elle ranima son courage, et elle se décida à braver sa vengeance et ses menaces jusqu'au moment du moins où elle pourrait être assurée s'il était vraiment au château. Elle était dans cette disposition lorsque Montoni lui fit dire qu'il l'attendait au salon de cèdre. Elle s'y rendit en tremblant. Montoni était seul. « Je vous ai fait demander, lui dit-il, pour vous donner l'occasion de revenir sur vos ridicules déclarations au sujet des biens du Languedoc. Je veux bien ne vous donner qu'un conseil, quoique je puisse donner des ordres. Si réellement vous avez été dans l'erreur, si vous avez cru réellement que ces biens vous appartenaient, du moins n'y persistez pas. Cette erreur, vous le comprendrez trop tard, vous deviendrez enfin fatale. Ne provoquez pas ma colère et signez ce papier. « Si je n'ai aucun droit, monsieur, dit Émilie, de quelle nécessité est-il pour vous que je signe un abandon? Si les terres sont à vous, vous les pouvez certainement posséder, et sans mon entremise, et sans mon consentement. » Je n'argumenterai plus, dit Montoni avec un regard qui la fit trembler. J'aurais dû voir que c'était prendre une peine inutile que de vouloir raisonner avec un enfant. On ne m'abusera pas plus longtemps. Que le souvenir de ce que votre tante a souffert en conséquence de son opiniâtre folie vous serve en ce moment de leçon. Signez ce papier. La résolution d'Émilie fut pour un moment ébranlée. Elle frémit aux souvenirs et aux menaces qu'on lui mettait devant les yeux. Mais l'image de Valancourt qui l'avait animée si longtemps, et qui peut-être était près d'elle, vint soudain assaillir son cœur, et la forte indignation que, dès l'enfance, lui avait inspirée l'injustice, lui donna dans ce moment un courage imprudent, mais noble. « Signez ce papier, » dit Montoni avec plus d'impatience. « Jamais, monsieur, » dit Émilie. « Votre procédé me prouverait l'injustice de vos prétentions, si j'avais ignoré mes droits. » Montoni pâlit de fureur. Ses lèvres tremblaient, et ses yeux enflammés firent presque repentir Émilie de la hardiesse de sa réplique. « Toute ma vengeance tombera sur vous, » s'écria-t-il avec un serment exécrable. « Elle ne sera point différée. Ni les biens du Languedoc, ni ceux de Gascogne ne seront à vous. Vous avez osé mettre en question mes droits. Osez maintenant y mettre mon pouvoir. J'ai un châtiment prêt, et auquel vous ne vous attendez guère. Il est terrible, cette nuit même. « Cette nuit ?» dit une autre voix. Montoni s'arrêta et se tourna à demi. Puis, semblant se recueillir, il prononça d'un ton plus bas. « Vous avez vu dernièrement un exemple terrible d'obstination et de folie. Il ne me paraît pourtant pas qu'il ait suffi pour vous épouvanter. Je pourrais vous en citer d'autres, et vous faire trembler seulement par ce récit. » Il fut interrompu par un gémissement qui semblait s'élever de dessous la chambre où ils étaient. Il porta ses regards autour de lui. L'impatience et la rage étincelaient dans ses yeux. Quelque chose néanmoins, comme une ombre de crainte, sembla passer dans sa physionomie. Émilie s'assit sur une chaise près de la porte, parce que les mouvements qu'elle avait ressentis avaient, pour ainsi dire, anéanti ses forces. Montoni fit à peine une pause d'un instant, et commandant à ses traits, il reprit son discours d'une voix plus basse, mais plus sévère. Je vous ai dit que je pouvais vous fournir d'autres exemples de mon pouvoir et de mon caractère. Vous ne le concevez pas, ou vous n'oseriez le défier. Je pourrais vous prouver que ma résolution prise, mais je parle à un enfant. Je le répète, ces exemples terribles que je pourrais vous citer maintenant ne vous serviraient à rien. Votre repentir finirait vos oppositions, que maintenant il ne m'apaiserait pas. Je serai vengé. Je me ferai justice. » Un autre gémissement succéda au discours de Montoni. « Sortez, » dit-il sans paraître prendre garde à un incident si étrange. Hors d'état d'implorer sa pitié, Émilie se leva pour sortir. Mais elle ne pouvait se soutenir. Succombant sous le poids de la terreur, elle retomba sur la même chaise. « Ôtez-vous de ma présence, » continua Montoni. « Cette affectation de crainte convient mal à une héroïne qui a osé braver toute mon indignation. »« N'avez-vous rien entendu, signor ?» dit Émilie tremblante et hors d'état de se retirer. « J'entends ma voix, » dit Montoni avec sévérité. « Rien autre chose ?» dit Émilie qui s'énonçait avec difficulté. « Encore, n'entendez-vous rien maintenant ?» « Obéissez, » répéta Montoni. « Quant à ces indécentes plaisanteries, je saurai bientôt découvrir quel est celui qui se les permet. » Émilie se leva encore et fit un effort pour sortir. Montoni la suivit. Mais au lieu d'appeler ses domestiques pour faire une recherche dans sa chambre, comme la première fois il l'avait pratiquée, il se retira sur le rempart. Émilie, dans son corridor, s'arrêta un moment près d'une fenêtre ouverte. Elle vit un détachement des troupes de Montoni qui descendaient des montagnes éloignées. Elle n'y fit attention que parce qu'elle pensait aux infortunés prisonniers que peut-être ils amenaient au château. À la fin, arrivée chez elle, elle se jeta sur un fauteuil, accablée des horreurs nouvelles qui aggravaient sa situation. Elle ne pouvait ni se repentir, ni s'applaudir de sa conduite. Elle se rappelait seulement qu'elle était au pouvoir d'un homme qui ne connaissait de règles que sa propre volonté. La surprise, les terreurs de la superstition, qui d'abord l'avaient agitée, cédèrent un instant à celle de la raison. Elle fut à la fin tirée de sa rêverie par un mélange de voix et de hennissements de chevaux, que le vent apportait des cours. Une soudaine espérance de quelque heureux changement s'offrit à elle. Mais elle songea aux troupes qu'elle avait vues de la fenêtre, et pensa qu'elles étaient celles dont Annette avait dit qu'on attendait le retour. Bientôt après, elle entendit faiblement un grand nombre de voix dans les salles. Le bruit des chevaux cessa, et un silence complet suivit. Émilie écoutait attentivement, tâchant de reconnaître le pas d'Annette dans le corridor. Tout était calme. Tout à coup, le château sembla s'ébranler de confusion. Elle entendit retentir les échos de pas précipités, d'allées, de venues, dans les salles, dans les passages, des discours véhéments sur le rempart. Elle courut à la fenêtre, elle vit Montoni et d'autres officiers appuyés sur les parapets et occupés des retranchements, tandis que des soldats disposaient des canons. Elle regardait presque sans réfléchir. Annette à la fin arriva, mais elle ne savait rien au sujet de Valancourt. « Ils prétendent tous, mademoiselle, » dit Annette, « ne rien savoir touchant les prisonniers, mais il y a ici de belles affaires. La troupe est arrivée, mademoiselle. Elle revenait bon train au risque de tout écraser. On ne savait qui, du cheval ou du cavalier, entrerait le premier sous la voûte. Ils ont apporté des nouvelles. Quelles nouvelles ? Ils ont apporté la nouvelle qu'un parti des ennemis, comme ils disent, vient sur leurs pas attaquer le château. Ainsi, je pense, tous les officiers de justice vont l'assiéger, tous ces terribles personnages qu'on rencontrait souvent à Venise. Mon Dieu, je vous rends grâce, dit Émilie avec ferveur. Il me reste quelque espérance. Que voulez-vous dire, mademoiselle ? Voudriez-vous tomber dans les mains de ces gens-là ? Je tremblais en passant près d'eux, et j'aurais deviné ce qu'ils étaient si Ludovico ne me l'eût pas dit. Mais ne pouvons-nous pas être plus mal que nous ne sommes ici ? Dit Émilie. Mais quelle raison avez-vous de croire que ce soit des officiers de justice ? C'est que tous nos gens, mademoiselle, sont dans une frayeur, dans un trouble. Je ne connais que la justice qui puisse les faire trembler ainsi. Je pensais que rien ne les épouvanterait, à moins que ce ne fût un revenant. Mais à présent, il y en a qui se fourrent dans les caves. Ne dites pas cela à monsieur, mademoiselle. J'en ai entendu deux qui disaient « Sainte Vierge, qu'avez-vous, mademoiselle ? Vous êtes bouleversée ? Vous ne m'écoutez pas. » « Je vous écoute, Annette. Continuez, je vous en prie. » « Eh bien, mademoiselle, tout le château est en l'air. Les uns chargent le canon, d'autres examinent les portes, les murs. Ils frappent, ils garnissent, ils bouchent, comme si on n'eût pas fait de si longues réparations. Mais qu'arrivera-t-il à moi, mademoiselle ? À vous ? À Ludovico ? Oh, si j'entends tirer le canon, je mourrai de peur. » Si je pouvais trouver la grande porte ouverte une minute, j'aurais bientôt fait de me glisser le long des murailles. On ne me reverrait jamais ici. » Émilie saisit ces derniers mots. « Oh, si je pouvais, » s'écria-t-elle, « la trouver ouverte un moment, mon repos serait assuré. » Le profond soupir qu'elle poussa, l'égarement de ses regards effrayèrent Annette encore plus que ses paroles. Elle pria Émilie de s'expliquer. Frappée sur le champ du secours dont serait Ludovico s'il y avait moyen d'échapper, Émilie rendit à Annette la substance de son entretien avec M. Montoni. Elle la conjura en même temps de ne le confier qu'au seul Ludovico. « Peut-être, ajouta-t-elle, peut-être il pourra nous sauver. Allez le trouver, Annette. Dites-lui ce que j'ai à craindre et ce que j'ai déjà souffert, et priez-le d'être discret, et de songer à votre délivrance sans perdre un moment. » S'il veut l'entreprendre, il en sera récompensé. Je ne puis lui parler moi-même. Nous serions observés, et l'on empêcherait notre fuite. Mais allez vite, Annette. Surtout, soyez discrète. J'attendrai votre retour dans cet appartement. » Cette bonne fille, dont l'âme honnête avait été pénétrée de ce récit, était alors aussi empressée d'obéir qu'Émilie de l'employer. Elle sortit à l'instant. Montoni, sans être précisément, comme Émilie le supposait, un capitaine de voleurs, avait employé ses troupes à des expéditions aussi atroces qu'audacieuses. Non seulement elles avaient pillé dans l'occasion tous les voyageurs sans défense, mais elles avaient saccagé des habitations qui, situées au fond des montagnes, n'étaient disposées à aucune résistance. Dans ces expéditions, les chefs ne se montraient pas. Les soldats, en partie déguisés, étaient pris quelquefois pour des bandits ordinaires, d'autres fois pour des bandes étrangères, qui à cette époque inondaient l'Italie. Ils avaient pillé des maisons et rapporté d'immenses trésors, mais ils n'avaient encore attaqué qu'un château avec des auxiliaires de leur sorte. Ils en avaient été vigoureusement repoussés et poursuivis par des ennemis, alliés de ceux qu'ils assiégeaient. Les troupes de Montoni se retirèrent précipitamment sur Udolphe, mais elles furent suivies de si près dans les défilés des montagnes qu'étant à peine sur les hauteurs qui entouraient la forteresse, elles aperçurent dans le vallon l'ennemi qui gravissait les rochers et qui n'était qu'à une lieue. À cette découverte, elles redoublèrent de diligence pour avertir Montoni de se préparer. Et c'était leur prompte arrivée qui avait jeté le château dans une si grande confusion. Pendant qu'Émilie attendait avec anxiété le résultat de quelque information d'Annette, elle vit de sa fenêtre un corps de troupes qui descendait des hauteurs. Annette était sortie depuis quelques moments. Elle avait à remplir une mission délicate et dangereuse, et cependant Émilie était déjà tourmentée d'impatience. Elle écoutait, ouvrait sa porte, et s'avançait au bout du corridor au-devant d'elle. Elle entendit enfin marcher auprès de sa chambre. Elle ouvrit. Elle vit non pas Annette, mais le vieux Carlo. De nouvelles craintes s'emparèrent d'elle. Il lui dit que M. Montoni l'envoyait pour l'avertir de se préparer à quitter Udolphe à l'instant, parce que le château allait être assiégé. Il ajouta qu'on préparait des mules pour la conduire avec ses guides en lieu de sûreté. De sûreté ? S'écria Émilie sans y réfléchir. « Monsieur Montoni a-t-il donc tant de considération pour moi ?» Carlo baissa les yeux et ne répondit rien. Mille différentes émotions agitèrent successivement Émilie à ce message. Celle de la joie, de la douleur, de la défiance, de l'appréhension paraissait et disparaissait avec la rapidité de l'éclair. Un moment, elle crut impossible que Montoni prît des mesures pour sa sûreté. Il était si étrange qu'il la fit sortir du château, qu'elle n'attribuait cette conduite qu'au dessein d'exécuter quelque nouveau projet de vengeance, ainsi qu'il l'en avait menacé. Carlo la fit souvenir qu'elle avait peu de temps à perdre, et que l'ennemi était à la vue du château. Émilie le pria de lui dire en quel lieu on devait la conduire. Il hésita un peu, et lui dit qu'il n'avait pas d'ordre pour le lui annoncer. Mais elle renouvela la question et il répondit qu'il croyait qu'elle allait en Toscane. « En Toscane ? » s'écria Émilie. « Et pourquoi dans ce pays ?» Carlo lui répondit qu'il n'en savait pas davantage, qu'elle allait être menée sur les frontières de Toscane, dans une chaumière au pied des Apennins. « Il n'y a pas, dit-il, pour une journée de marche. » Émilie le congédia. Ses tremblantes mains préparèrent le petit paquet qu'elle voulait emporter avec elle, et elle s'occupait de ce soin lorsque Annette rentra. Oh, mademoiselle, il n'y a rien à tenter. Ludovico assure que le nouveau portier est encore plus vigilant que Bernardin lui-même. Autant se jeter dans la gueule du loup que dans la sienne. Ludovico, mademoiselle, est presque aussi désolé pour mon compte que vous l'êtes. Il dit que je ne survivrai pas au premier coup de canon. Elle se mit à pleurer. Mais apprenant ce qui venait de se passer, elle pria Émilie de l'emmener avec elle. Bien volontiers, dit Émilie, si M. Montoni veut y consentir. Annette ne lui répondit pas, et courut chercher Montoni qui était sur la terrasse, environné de ses officiers. Elle commença une supplique. Il lui ordonna vertement de rentrer, et la refusa absolument. Annette ne plaidait pas seulement pour elle, mais encore pour Ludovico. Montoni fut contraint de commander qu'on l'emportât avant qu'elle voulût se retirer. Dans son désespoir, elle retourna près d'Émilie. Celle-ci ne jugea pas de bon augure le refus fait à Annette. On vint bientôt après l'avertir de descendre à la grande cour, où les mules et les conducteurs l'attendaient. Émilie essaya vainement de consoler Annette, qui, fondant en larmes, persistait à répéter qu'elle ne reverrait jamais sa chère demoiselle. Émilie pensait en elle-même que sa crainte n'était que trop fondée. Elle s'efforça pourtant de la calmer, et lui fit ses adieux avec une sérénité apparente. Annette la suivit dans les cours où les préparatifs réunissaient la foule. Elle la vit monter sur sa mule, partir avec les conducteurs, et elle rentra au château pour y pleurer encore. Émilie, pendant ce temps, regardait les sombres cours du château. Ce n'était plus ce silence morne, comme la première fois qu'elle y avait pénétré. C'était le bruit des préparatifs d'une défense, des soldats et des ouvriers qui se heurtaient en courant à leur poste. Quand elle eut passé le portail, qu'elle eut mis derrière elle cette herse imposante dont elle avait eu tant d'effroi, quand en regardant autour d'elle, elle ne vit plus de murailles pour arrêter ses pas, en dépit de l'avenir, elle sentit une joie soudaine, comme celle d'un captif qui recouvre sa liberté. Cette vive émotion ne lui permettait plus de réfléchir aux dangers qui pouvaient l'attendre encore. Les montagnes infestées d'ennemis qui ne demandaient que le pillage, un voyage commencé avec des guides dont le sol extérieur donnait une effroyable idée. Dans le premier moment, elle ne pouvait éprouver que de la joie. Elle était hors de ses murailles, où elle était entrée avec de si tristes présages. Elle se rappelait de quel superstitieux pressentiment elle avait alors été saisie, et souriait de l'impression que son cœur en avait reçue. Elle regardait avec ce sentiment les tourelles du château, plus élevées que le bois au milieu duquel elle cheminait. Elle se souvint de l'étranger qu'elle y croyait détenu, et la pensée que ce pouvait être Valancourt répandit un nuage sur sa joie. Elle réunit toutes les circonstances relatives à cet inconnu depuis la nuit où elle l'avait entendu chanter la chanson de son pays. Elle les avait souvent rappelées et comparées sans en tirer une sorte de conviction, et elle croyait seulement que Valancourt pouvait être prisonnier à Udolphe. Il était possible cependant qu'elle recueillît de ses conducteurs des informations plus précises. Mais craignant de les interroger trop tôt, de peur qu'une défiance réciproque ne les empêchât de s'expliquer en la présence l'un de l'autre, elle attendit l'occasion favorable de les entretenir séparément. Bientôt après, une trompette retentit au travers des échos des montagnes, mais de fort loin. Les deux guides s'arrêtèrent et regardèrent derrière eux. Les bois épais dont ils étaient entourés ne laissaient rien découvrir. Un d'eux gravit au haut d'une éminence pour observer si l'ennemi s'avançait, puisque, sans aucun doute, la trompette était de son avant-garde. L'autre, pendant cet intervalle, restait seule avec Émilie. Elle hasarda une question au sujet de l'étranger d'Udolphe. Hugo, c'était son nom, répondit que le château renfermait plusieurs prisonniers, mais il ne se rappelait ni leur figure ni le temps de leur arrivée. Il ne pouvait conséquemment donner aucune information, mais il y avait dans ses discours une discrétion sournoise qui l'eût probablement empêché de la satisfaire, lors même qu'il en eut le pouvoir. Elle lui demanda quel prisonnier on avait fait depuis le temps qu'elle indiqua, c'est-à-dire depuis celui où elle avait entendu pour la première fois la musique. « Toute la semaine, dit Hugo, j'ai été dehors avec la troupe, et je ne sais rien de ce qui s'est passé au château. Nous avions assez de besogne sur les bras, et une rude besogne. » Bertrand, l'autre homme, était alors de retour. Émilie ne demanda plus rien. Bertrand fit à son compagnon le rapport de ce qu'il avait vu, et l'on continua à marcher dans un profond silence. Entre les ouvertures des bois, Émilie découvrait souvent quelques aperçus du château. Les tours occidentales dont les fortifications étaient alors couvertes d'archers, et les remparts au-dessous, dont les soldats tout en rumeur garnissaient les murailles et préparaient le canon. Les voyageurs sortirent des bois et tournèrent dans une vallée par une direction contraire à celle que l'ennemi devait suivre. Émilie eut alors la vue complète du château. Ses murailles grises, ses tours, ses terrasses, ses effrayants précipices et les sombres forêts qui l'entouraient. Enfin les armures étincelantes de ses condottieri que frappaient les rayons du soleil. Elle contemplait les larmes aux yeux ces murailles où peut-être était enfermé Valancourt. Les nuages flottaient avec vitesse, Un éclat subit enrichissait les dehors de cette masse, et tout à coup un voile sombre l'enveloppait. Le bruit du canon affectait Hugo, comme le son de la trompette excite un cheval de guerre. Son âme s'enflammait. Il brûlait de voler au combat, et maudissait Montoni qui l'avait envoyé si loin. Les sentiments de son compagnon paraissaient d'une autre nature, et bien plus faits pour la cruauté que pour les dangers de la guerre. Émilie faisait de fréquentes questions sur le lieu de sa destination. Tout ce qu'elle put apprendre, c'est qu'elle allait à une chaumière en Toscane. Et toutes les fois qu'elle en parlait, elle croyait découvrir sur la figure de ces deux hommes une expression de malice et de finesse dont elle se sentait alarmée. C'était durant l'après-midi qu'ils étaient sortis du château. On voyagea pendant plusieurs heures à travers des régions d'une profonde solitude. Ni le bêlement des brebis, ni l'aboiement des chiens ne rompaient l'absolu silence. Et alors on était trop loin pour saisir le bruit du canon. Vers le soir, on s'enfonça parmi des précipices, en de noires forêts de cyprès, de pins et de mélèzes. C'était un désert si sauvage, si reculé, que si la mélancolie pouvait se choisir une résidence, ce lieu aurait été son séjour de prédilection. Ce fut dans ce désert qu'ils se proposèrent de se reposer. « La nuit va venir, » dit Hugo, « et les loups seraient à craindre au moment d'une halte. » C'était pour Émilie une alarme nouvelle, mais inférieure à celle de se trouver livrée la nuit et en de tels lieux à de tels gens. Les horribles soupçons qu'elle avait conçus sur les desseins de Montoni se présentèrent avec plus de force. Elle s'efforça d'empêcher le repos que les hommes voulaient prendre et demanda avec inquiétude combien de chemin il restait à faire. « Plusieurs lieux encore, » dit Bertrand. « Vous pouvez, s'il n'y aura, ne pas manger, si cela vous plaît. Mais pour nous, nous voulons souper, tandis que nous le pouvons. Nous en aurons un peu de besoin avant que de finir ce voyage. Le soleil va se coucher. Arrêtons-nous sous cette roche. » L'incertitude avait tant augmenté son anxiété au sujet du prisonnier Dudolf que, ne pouvant s'entretenir seule avec Bertrand, elle lui fit des questions en la présence d'Hugo. Il affecta une ignorance entière à cet égard. Le soleil était couché depuis longtemps. Les nuages étaient lourds, leurs bords étaient rougis d'un cramoisi sulfureux et répandaient une teinte enflammée sur les pins des forêts. Le zéphyr qui agitait les arbres murmurait sourdement entre leurs branches et faisait entendre une sorte de gémissement qui ne faisait qu'ajouter à l'effroi d'Émilie. Les montagnes enveloppées dans l'ombre, les torrents qui mugissaient au loin, les sombres forêts et les profondes vallées, où se rencontraient des cavernes, qu'ombrageaient des cyprès avec des sycomores, tout se confondait avec l'obscurité. Émilie, d'un œil inquiet, cherchait à découvrir l'extrémité de ce vallon. Elle crut qu'il n'en avait aucune. Ni hameau ni chaumière ne se découvraient. On n'entendait ni aboyer les chiens, ni retentir le plus léger bruit. Émilie, d'une voix tremblante, hasarda de rappeler à ses guides qu'il commençait à être tard, et à leur demander jusqu'où ils avaient à aller. Ils étaient trop occupés de leur entretien pour prendre garde à sa question. Elle s'abstint de la répéter, pour s'épargner quelques réponses insolentes. Ils finirent pourtant leur souper, en recueillirent les débris et reprirent la route du vallon, dans un morne silence. Émilie continuait de rêver à sa propre situation et aux motifs que pouvait avoir Montoni pour l'y réduire. Il avait un mauvais dessein contre elle, on ne pouvait en douter. S'il ne la faisait pas périr pour hériter d'elle à l'instant, il ne la faisait cacher pendant un temps que pour la réserver à de plus sinistres projets, aussi dignes de son avarice et mieux assortis à sa vengeance. Elle se rappela le signor Brocchio et sa conduite dans le corridor. Son horrible supposition en prit une force nouvelle. Cependant, à quel but l'éloigner du château où tant de crimes secrets s'étaient probablement déjà commis. L'effroi de ce qu'elle allait trouver devint alors si excessif qu'elle se vit prête à perdre connaissance. Elle pensait en même temps à son bien-aimé père et à ce qu'il aurait souffert s'il avait pu prévoir les étranges et cruels événements de sa vie. Avec quel soin n'eût-il pas évité de confier sa fille orpheline à une femme aussi faible que Madame Montoni? Sa position actuelle lui paraissait à elle-même si romanesque, si invraisemblable, elle se rappelait si bien le calme et la sérénité de ses premiers ans, que dans certains moments elle se croyait presque victime de quelque songe épouvantable et d'une imagination en délire. La contrainte que lui imposa la présence de ses guides changea sa terreur en un sombre désespoir. La perspective affreuse de ce qui pouvait l'attendre la rendait presque indifférente aux dangers qui l'environnaient. Elle considérait sans émotion les difficultés et l'obscurité de la route, et les montagnes dont les contours se distinguaient à peine dans les ténèbres. Objet pourtant qui avait si vivement affecté ses esprits, et dont la teinte sévère avait ajouté récemment aux horreurs de son avenir. Il faisait alors si noir qu'en avançant au plus petit pas, les voyageurs voyaient à peine assez pour se conduire. Les nuages qui semblaient chargés de foudre passaient lentement sous la voûte des cieux, et dans leurs intervalles laissaient voir les tremblantes étoiles. Les masses de cyprès et de sycomores qui ombrageaient les rochers se balançaient au gré des vents, et les bois où ils s'engouffraient rendaient au loin le plus triste murmure. Émilie frissonnait malgré elle. « Où est la torche ?» dit Hugo. « Le temps se couvre. » « Non, pas encore, » reprend Bertrand. « Nous voyons le chemin. Il vaut mieux ne pas allumer tout le temps qu'on le pourra. Si quelque parti ennemi se trouvait en campagne, notre flambeau pourrait nous trahir. » Hugo lui dit quelques paroles qu'Émilie ne put entendre. Ils continuèrent d'avancer dans l'obscurité, et Émilie, désirant presque que quelque ennemi pût les surprendre, l'idée d'un changement prêtait à l'espérance. Elle pouvait à peine imaginer une position plus effroyable que la sienne. Tout en allant, son attention fut attirée par une légère flamme qui brillait par moments à la pointe de la pique portée par Bertrand. Elle ressemblait à celle qu'elle avait observée sur la lance de la sentinelle, la nuit où Madame Montoni mourut. La sentinelle lui avait dit que cette flamme était un présage. L'événement qui avait suivi avait paru justifier l'assertion, et l'esprit d'Émilie en avait conservé une impression superstitieuse. L'apparition actuelle la confirma. Elle crut voir le présage de son propre destin. Elle remarquait dans un morne silence l'éclat et la disparition de la flamme. Bertrand dit à la fin « Allumons la torche et cherchons un abri dans les bois. Il se prépare un grand orage, voyez ma lance. » Il la montra. Et la flamme brillait à la pointe. À la bonne heure, dit Hugo. Vous n'êtes pas de ceux qui croient aux pronostics. Nous avons laissé des poltrons au château, qui pâliraient à cet aspect. J'ai souvent aperçu la même chose avant le tonnerre. Elle en est le présage. Nous en aurons, soyez-en sûrs. Les nuages se fondent en éclairs. Hugo trouva enfin une pierre et la torche fut allumée. Les hommes mirent pied à terre, aidèrent Émilie à descendre, et conduisirent les mules à la bordure du bois, à gauche. Le sol inégal et rompu était embarrassé de buissons et de plantes sauvages. Il fallut faire un détour pour ne pas tomber au milieu. Émilie ne pouvait approcher de ce bois sans éprouver de plus en plus le sentiment de son danger. Le profond silence qui y régnait, leur épais feuillage que n'agitait pas le moindre souffle, leur ombre noire que rembrunissait encore la vive clarté des éclairs, la flamme rougeâtre de la torche, tout contribuait à renouveler ses plus terribles appréhensions. Elle crut qu'à ce moment la figure de ses conducteurs déployait une fierté plus farouche, et la joie d'un triomphe qu'il cherchait à dissimuler. Son imagination troublée lui suggéra qu'on la menait dans un bois pour y compléter, par un meurtre, la vengeance de Montoni. Cette horrible pensée arracha un soupir de son cœur. Ses compagnons, surpris, revinrent promptement à elle. Elle leur demanda pourquoi ils l'amenaient à ces bois, les engagea à continuer leur chemin sur la route et leur représenta que pendant un orage, elle serait moins dangereuse que dans les bois. « Non, non, lui dit Bertrand, nous savons bien où est le danger. Voyez les nuages qui s'ouvrent sur nos têtes. En outre, sous les bois, nous risquons moins d'être vus par l'ennemi, si par hasard il passait dans le chemin. Par Saint-Pierre et sa compagnie, j'ai autant de cœur que les plus braves. Il y a bien quelques pauvres diables qui pourraient en convenir, s'ils étaient vivants. Mais que peut-on contre le nombre ? Que marmottez-vous donc là ? Dit Hugo d'un air de mépris. Et qui est-ce qui craint le nombre ? Qu'ils viennent, et tant qu'il en tiendrait au château du signor Montoni, je voudrais leur montrer à quel homme ils auraient affaire. Pour vous, je vous laisserais tranquillement au fond de quelques trous. Vous regarderiez, et vous verriez comment je ferais fuir mes coquins. Qui parle de crainte ?» Bertrand lui répliqua avec un serment effroyable qu'il n'aimait pas les plaisanteries. Il y eut entre eux une très violente altercation. Le tonnerre la fit cesser. La foudre tout à coup éclata au-dessus de leur tête avec un tel fracas que la terre parut ébranlée jusque dans ses fondements. Les brigands firent une pause et se regardèrent tous deux. Les lueurs bleues de l'éclair sillonnaient le sol entre les touffes des arbres, et Émilie, qui regardait à travers le feuillage, voyait à tout moment les montagnes se couvrir d'une flamme livide et sulfureuse. Alors, peut-être, elle avait moins peur de l'orage que de ses guides, et d'autres craintes occupèrent son esprit. Les hommes s'étaient placés sous un grand châtaignier. Ils avaient mis leur pic à terre. Émilie, plusieurs fois, remarqua la flamme légère qui se jouait autour de leur pointe. « Je voudrais bien que nous fussions au château, » dit Bertrand. « Et je ne sais pourquoi le signor nous a chargés de cette affaire. Oh mon Dieu, quel vacarme là-haut! Je me ferais prêtre, en vérité. Hugo, dis-moi, aurais-tu un rosaire ?»« Non, » répliqua Hugo. « Je laisse à des poltrons comme toi le soin de porter des rosaires. Moi, je porte une épée. » »« Elle te servira bien pour combattre une tempête, » dit Bertrand. Un autre coup répercuté dans les immenses cavités des montagnes les fit taire pour un moment. Le tonnerre roulait toujours. Hugo proposa d'avancer. « Nous perdons notre temps, » dit-il. « Les sentiers dans les bois sont aussi bien garantis par les feuilles qu'on l'est ici par celles du châtaignier. » Ils firent marcher les mules entre des massifs d'arbres sur un gazon glissant qui en cachait les hautes racines. Le vent s'était élevé et disputait avec la foudre. Il précipitait avec rage ses tourbillons au-dessus des bois. La lueur rougeâtre de la torche en jetait un éclat plus fort et laissait voir des retraites faites uniquement par les loups, dont Hugo avait d'abord parlé. À la fin, la force du vent parut écarter les orages. La foudre résonnait au loin et ne se faisait que faiblement entendre. Après une heure de marche dans les bois, les éléments parurent un peu calmés. Les voyageurs du vallon se trouvèrent à la crête brune d'une montagne. Une large vallée s'étendait à leurs pieds et se laissait voir à la clarté douteuse de la lune encore voilée. Quelques nuages parcouraient encore le ciel éclairci de la tempête et se retiraient lentement au bord de l'horizon. Quand Émilie se vit hors de ces bois, elle se sentit ranimée. Elle pensait que si ces deux hommes avaient eu l'ordre de la détruire, ils auraient certainement exécuté ce dessein barbare dans le désert affreux dont elle venait de sortir, et où jamais un regard humain n'en aurait pu trouver la trace. Rassurée par cette réflexion et par la tranquillité de ses guides, elle descendit en silence par un chemin fait pour les troupeaux et pratiqué à droite au bord du bois. Émilie ne put sans plaisir contempler la beauté de la vallée qui lui semblait entrecoupée de bois, de prairies et de terres cultivées. Elle était couronnée au nord et à l'orient par l'amphithéâtre des Apennins. Au couchant et au sud, le paysage s'étendait dans les belles plaines de la Toscane. « Voilà la mer au-delà, » dit Bertrand, comme s'il avait deviné que Émilie examinait les objets que le clair de lune lui permettait d'apercevoir. « Elle est au couchant, quoique nous ne puissions la distinguer. » Émilie aperçut déjà une différence dans le climat. Ce n'était plus la température des montagnes affreuses qu'elle quittait. On descendait toujours, et l'air la parfumait des odeurs de mille plantes qui parsemaient la pelouse, et dont la dernière pluie augmentait l'exhalaison. Le pays qui l'environnait annonçait une beauté si douce, elle contrastait si fortement avec la grandeur effrayante des lieux où elle s'était vue confinée, et avec les mœurs de ceux qui les habitaient, qu'Émilie se crut transportée à la vallée, sa demeure chérie. Elle s'étonnait que Montoni l'eût envoyée dans cette contrée charmante, et ne pouvait croire qu'un théâtre si enchanteur fût choisi pour le théâtre d'un crime. Hélas, ce n'était pas le pays, mais les personnes qu'il avait dû choisir pour l'exécution de ses plans. Émilie osa demander s'ils approchaient de leur destination. Hugo lui répondit qu'il n'en était pas loin. « À ce bois de châtaigniers dans le vallon, dit-il, près du ruisseau où se réfléchit la lune. » « Je désire bien m'y voir en repos avec un flacon de bon vin et une tranche de jambon. » Émilie reprit courage en apprenant que son voyage allait finir. Elle vit le bois de châtaigniers dans une partie ouverte du vallon et au bord du ruisseau. En peu de moments, ils atteignirent l'entrée du bois. ils aperçurent au travers du feuillage une lumière dans une chaumière éloignée. Ils s'avancèrent en côtoyant le ruisseau. Les arbres qui le couvraient dérobaient les rayons de la lune, mais une longue ligne de lumière, qui venait de la cabane, se distinguait sur sa surface tremblante et sombre. Bertrand s'arrêta le premier. Émilie entendit qu'il frappait fortement et appelait à la porte. On ouvrit une petite fenêtre où paraissait une lumière. Un homme demanda ce qu'on voulait, descendit aussitôt, et les reçut dans une chaumière propre mais rustique. Il appela sa femme pour apporter quelques rafraîchissements aux voyageurs. Cet homme causait souvent à part avec Bertrand. Émilie l'observa. C'était un paysan grand, mais non pas robuste, d'une complexion pâle et d'un regard perçant. Son extérieur n'annonçait pas un caractère qui pût gagner la confiance d'une jeune personne. Il n'y avait rien dans ses manières qui pût lui concilier la bienveillance. Hugo, s'impatientant, demandait à souper, et prenait même un ton d'autorité qui ne semblait admettre aucune réplique. « Je vous attendais il y a une heure, » dit le paysan, « car j'avais eu vers les 3 heures une lettre du signor Montoni. Moi et ma femme, nous ne comptions plus sur vous. Nous avions été nous coucher. Comment vous êtes-vous trouvé de l'orage ?»«
Mal, » répliqua Hugo.
« Fort mal. Et nous serons aussi mal ici si vous ne vous dépêchez pas davantage. Donnez plus de vin, et dites-nous ce que nous mangerons. »
Le paysan plaça devant eux tout ce que contenait la chaumière, lard, vin, figues, et des raisins d'un goût exquis et d'une grosseur prodigieuse. Après qu'Émilie se fût un peu rafraîchie, la femme du paysan lui indiqua sa chambre. Émilie fit quelques questions au sujet de Montoni. La femme, qui se nommait Dorine, répondit avec réserve, et prétendit qu'elle ignorait les intentions de son Excellence, en envoyant Émilie en ce lieu. Elle convint que son époux les connaissait. Émilie s'aperçut bientôt qu'elle n'obtiendrait aucun renseignement sur sa destinée. Elle congédia Dorine et se mit au lit. Mais les scènes étonnantes qui venaient de se passer, toutes celles qu'elle prévoyait, se présentèrent ensemble à son esprit inquiet, et concoururent avec le sentiment de la situation nouvelle pour la priver de tout sommeil.